Je voudrais célébrer par anticipation le décès et la naissance au ciel, comme on dit quand on parle des saints, de ce grand saint libanais, saint Charbel Maklouf, un maronite, donc un catholique, car cette église maronite est catholique. Et c'est le pape Paul VI qui a béatifié le 5 décembre 1965 ce moine absolument exceptionnel. Si je vous supplie de rester à l'écoute, vous allez entendre un conte de Noël. Je vous offre cette vie comme un conte de Noël, rempli de miracles absolument vérifiés, mais de choses absolument exceptionnelles. Il a été canonisé le 9 octobre 1977. Le père, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le père Charbel Maklouf a vécu 23 ans dans un ermitage au Liban, jusqu'à sa mort, survenue le 24 décembre. C'est pour ça que j'anticipe de quelques jours, puisque c'est samedi, c'est dimanche, le 24 décembre, n'est-ce pas? Survenu le 24 décembre 1898, alors qu'il célébrait la messe de Noël, oui, oui, à l'âge de 70 ans. Il a poussé là la pratique des vertus religieuses à leur plus haut point d'héroïsme. Vous verrez, c'était un héros, comme on les voit chez les pères du désert et au Moyen-Âge. Et pourtant, c'était rempli d'amour, cet homme, un cœur immense. Il ne prenait, d'autre part, qu'un seul repas par jour composé de légumes crus ou cuits simplement à l'eau. Il passait presque toute la nuit et le jour dans la prière, la méditation devant le Saint-Sacrement. La lecture de la vie des saints, oui, la lecture de la vie des saints, comme nous nous faisons ensemble, en fait, et le travail manuel. Imaginez que dans sa cellule toute petite, son matelas était fait de feuillages de chêne couverts de paillasses. Certains moines qui ont eu la chance d'entrer dans sa cellule pour visiter, particulièrement après son décès, ont été stomaqués de voir ça. L'oreiller n'était qu'une pièce de bois enroulée dans un bout de soutane. Son prie-dieu à la chapelle était un assemblage de bâtons que recouvrait également un morceau de soutane. Il a fait 3 miracles vérifiés de son vivant à l'ermitage, dont la guérison d'une femme condamnée. Il a fait bien d'autres miracles, mais qui n'ont pas été aussi étroitement surveillés et vérifiés. Et ceux qu'il a opérés après sa mort ne se comptent pas, à commencer par la lumière diffusée par sa tombe, près du couvent de Anaya, où était son ermitage au Liban. Et quand on a exhumé son corps pour le transporter ailleurs, devant des tas de témoins sérieux, extrêmement sérieux, vous verrez tout à l'heure, bien son corps, qui était demeuré intact, transpirait du sang, il était flexible et aucune rigidité cadavérique. Son cercueil, d'ailleurs, fut rouvert 5 fois de 1899. Il est mort, je vous le rappelle, en 1898. Il a été ouvert 5 fois de 1899 à 1965 pour les constatations nécessité pour la cause de béatification, et à chaque fois, oui, oui, à chaque fois, on a retrouvé son corps dans le même état de conservation, transpirant toujours sans aucune trace de décomposition et sans odeur nauséabonde. Vous direz que c'est impensable et impossible. Eh bien, on a tous les documents, tous les faits, il y a des photos qui ont été prises. Il y a les certificats qui sont accordés par des gens les plus importants, des médecins, des savants, etc., y compris des musulmans. C'est absolument phénoménal, hein? Son procès de béatification avait été introduit en 1925 et accepté par Pie XII en 1954. Je vous rappelle donc que c'est Paul VI qui l'a béatifié en 1965 et canonisé à la veille de sa mort en 1977. J'avais toujours gardé dans ma bibliothèque, avec un livre magnifiquement fait sur l'ermite du Liban, Vie et prodige du bienheureux Charbel Maklouf, par un professeur viennois Ernest Joseph Görlich. Un homme fort sérieux d'après tout son pedigree, n'est-ce pas? Et ce livre m'avait beaucoup impressionné, d'autant plus qu'il est très bien écrit et qu'il était paru aux éditions Christiana. Et j'avais gardé une page du Petit Journal. Vous souvenez-vous, les gens plus âgés, il existait à Montréal, dimanche, le Petit Journal. Tout le monde achetait ça, c'était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et c'est l'exemplaire du 3 décembre 1950, en page 70, j'avais gardé ça. Et les guérisons se multiplient. Après une seconde exhumation, le cadavre est demeuré intact. Voici le dernier article d'une série consacrée aux faits extraordinaires constatés au couvent d'Anaya, au Liban, où les guérisons se multiplient. Ça venait de Paris, c'est un article de Richard Didier. Et on dit là-dedans, je vous fais un résumé, le 25 février 1950, comme il était constaté que le tombeau du père Charbel suintait, et comme il n'existe à cet endroit aucune source capable de produire une inondation, les moines d'Anaya décellèrent la pierre tombale et découvrirent le cercueil. Celui-ci était plein d'un liquide de couleur foncée qui ressemblait à du sang. Cet article est très sérieux car il est très prudent. Les vêtements sacerdotaux dont était revêtue la dépouille, le linge blanc qui en recouvrait la peau, la chemise, le capuchon maculé portaient de larges taches rouges. J'ai eu la faveur de pouvoir examiner longuement ces reliques, actuellement conservé par ordre de Rome, chez le promoteur de la foi, c'est-à-dire l'avocat général commis par la Sacrée Congrégation des Rites dans le procès de béatification. Elles n'exhalent nulle puanteur. Elles ne sont nullement décomposées. Un suaire appliqué sur le visage et les mains a conservé de façon saisissante l'empreinte bistrée du masque et des doigts. Autre fait sensationnel, le procès verbal de réinhumation, écrit à la main sur parchemin, signé par plusieurs médecins et plusieurs sommités religieuses, avait été enfermé dans un tube en métal et placé dans le cercueil. Or, le tube a été rongé par une rouille si tenace qui s'est désagrégée en 1000 morceaux, qui s'en vont en poussière, et, écoutez bien ça, le parchemin lui-même est entier et immaculé. Il n'a pas subi la moindre altération. Le corps a dû affronter l'examen récent du professeur Théophile Maroun, du docteur Itti et du docteur Bellan. Les trois médecins désignés par Rome ont effectué les prélèvements nécessaires et procèdent à l'analyse des taches apparentes sur les vêtements. Ils n'ont pas terminé leur rapport et ne peuvent donner la déclaration officielle, étant liés par le serment et le secret professionnel. Mais j'ai eu la bonne fortune de rencontrer un témoin oculaire que ses fonctions ont obligé à être présent lors de l'ouverture du cercueil, et voici ce que cette personne m'a déclaré. Le nez s'est trouvé attaqué, non par la décomposition, mais par l'humidité persistante entretenue par le liquide humectant le suaire. Et le reste du corps est intact, comme il l'était en 1926, lors d'une exhumation. La barbe et les poils sont adhérents à la peau, qui a conservé son aspect, sa souplesse et qui transpire comme par le passé. Les membres ont toujours la même élasticité. Les bras plient comme ceux d'un être vivant. Et les chevilles jouent parfaitement. Devant de tels faits, que faut-il penser? Est-ce qu'on a des cas comme ça en dehors de l'Église? Pas ma connaissance, mais peut-être des auditeurs pourraient m'en faire connaître. Mais je n'en connais pas. L'histoire du père Charbel, comme toutes les vies de saints, c'est l'aventure la plus passionnante qui soit et la seule aventure à laquelle il vaille la peine de dédier sa vie. Hein. Chercher Dieu. Oui, chercher Dieu. S'unir à lui en s'oubliant soi-même. Et cette aventure est sur terre le commencement du ciel. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vivement aux miracles et prodiges entourant la survie du père Charbel, comme je viens de le faire au début de cette émission, mais c'est pour retenir l'attention des gens moins intéressés aux questions spirituelles. afin qu'il découvre dans la vie de Saint Charbel Maclouf, qu'il découvre l'amour de Dieu. Car un cadavre qui se conserve parfaitement intact depuis près d'un siècle et qui transpire de la sueur et du sang, c'est quand même pas ordinaire, hein? Mais est-ce bien vrai? Vous le verrez, je vous en reparlerai. Et puis on lui attribue tant de miracles, et combien en a-t-il fait, se demande-t-on. Mais c'est des multitudes de miracles, mais rares sont ceux qui se préoccupent de l'essentiel, qui est de connaître les vertus de ce saint moine Charbel Maclouf. Quel était l'esprit d'humilité de saint Charbel Maclouf? Quelle était son obéissance, sa charité, son union à Dieu? Et bien peu songe à se le demander. La vie intérieure de ce prêtre, c'est pourtant son aspect le plus grandiose. Le plus grandiose. Le 8 mai 1828, est né un enfant maronite. Maronite, c'est l'église de Saint-Maron, unie à l'église catholique romaine, latine. C'est une des 20 églises qui forment la grande église catholique. Il y a des maronites à Montréal. Je vous le signale si ça peut soulager votre curiosité. Signalons d'abord qu'il y a un monastère maronite à Montréal sur l'avenue Ducharme à Outremont, 1500 avenue Ducharme. C'est le monastère Saint-Antoine le Grand. Vous pouvez aller à la messe là, la messe maronite catholique, à 19h le soir. Le dimanche, il y a 3 messes, à 10h, 11h30 et 19h encore. Donc 19h tous les jours. Et le dimanche, exceptionnellement, donc à 10h le matin et 11h30 le matin. Donc c'est le 8 mai 1828 qu'est né cet enfant maronite à Bika Kafra, un village du Liban. Et le Liban est un petit pays, comme on connaît, d'environ 1,5 million d'habitants, dont un peu plus de la moitié, il n'y a pas si longtemps, était chrétien. Je ne sais plus quelle est la proportion exacte aujourd'hui. Et son père, Antoun Zaour, était un pauvre paysan, un simple ouvrier, ne possédait qu'un modeste coin de terre, un petit élevage de rien du tout. Mais il avait un double trésor dans son cœur, c'était son amour du travail. Et une vraie piété, comme beaucoup de Libanais l'ont. Mais la mère du petit Youssef, qui s'appelait Brigitta, elle vivait presque comme une religieuse. D'ailleurs, quand sonnait la cloche à l'église du village, elle abandonnait sa quenouille et son bébé sur les bras et elle partait. Car bien assister à cette messe, la messe maronite, constituait pour elle le cœur du christianisme. Elle était mère de 5 enfants, dont 3 garçons, Jean, Bichara et Youssef, le Benjamin. Il y avait 2 filles aussi, Kauna et Warda. Ce sont des noms qu'on voit d'ailleurs dans notre journal, parfois ici à Montréal, on a tellement de Libanais parmi nous qui portent des noms comme Warda, des prénoms comme ça. Alors ces enfants, il leur a donné une éducation profondément chrétienne, et Youssef avait 3 ans lorsque son père est mort. Mais sa mère devait connaître bien des épreuves, son courage, sa confiance en Dieu ont sauvé la maison. On a pu dire qu'un saint est très souvent d'ailleurs le fruit de son milieu, de l'héroïsme chrétien de sa famille. Youssef, âgé de 14 ans, recevait d'ailleurs les railleries de ses camarades qui l'appelaient le saint, pour se moquer de lui, à cause de sa grande piété. Puis, à 16 ans, bien c'est l'âge où ses camarades ont commencé à parler des choses de l'amour. Mais l'idéal de Youssef se précise et s'affermit, et nombreuses sont les visites qu'il rend à ses 2 oncles maternels, qui sont moines, justement dans l'ordre libanais maronite, et vivant à l'ermitage de Saint-Antoine, à 5 kilomètres de Bika Kafra. Alors, ils contemplent leur genre de vie, puis ils participent même à leurs prières, puis à leurs chants, puis ils écoutent leurs sages conseils. Hein? Quels conseils les 2 oncles donnent-ils à Youssef? Celui qui veut trouver le Seigneur, des conseils de moine, hein? Celui qui veut trouver le Seigneur doit se retirer volontairement de toutes les choses créées. Ça semble bien exigeant, mais savez-vous qu'on peut faire ça dans le monde sans rejeter les amitiés, les sorties, les rencontres, les invitations, etc. Mais c'est de toujours mettre Dieu d'abord et avant tout, en tout. Et c'est pas facile pour nous laïcs. Donc celui qui veut trouver le Seigneur doit se retirer volontairement de toutes les choses créées et se recueillir profondément à lui-même sans faire de tout ce qui est au monde plus de cas que si cela n'existait pas. C'est une façon de parler, puis il faut bien comprendre. C'est une façon exagérée, mais il faut saisir à travers les mots ce que ça veut dire. Il ne faut pas mépriser, mais il faut apprécier à sa juste valeur comme des choses passagères ce qui passe. Et apprécier à sa juste valeur ce qui dure, qui est l'amour de Dieu pour nous. Donc ces moines s'entretenaient devant lui de la vie exemplaire de saint Antoine le Grand, qui est justement le patron de ce monastère dont je vous ai parlé, le monastère maronite au 1500 avenue du Charme à Outremont. Il lui parlait de l'église maronite, de son fondateur, de ses disciples qui avaient été martyrisés pour leur foi, et que jamais, jamais les maronites, malgré toutes les persécutions qu'ils ont reçues malheureusement des musulmans, n'avaient renié leur croyance. Et Charbel Maclouf priait non seulement avec des prières toutes faites, mais avec d'autres aussi, jaillit spontanément de son cœur ardent, et puis il priait. Hein. Et plus il priait, plus les yeux de son âme s'ouvraient. C'est ça que ça fait, la prière. La prière, ça ouvre les yeux de l'âme et ça fait voir les choses qui sont essentielles. Et à la messe qu'il se plaît à servir tous les matins, une lumière nouvelle jaillit de l'hostie dans son âme. Son âme qui était prise de grands désirs pour Dieu, il saisit une fois pour toutes le but de son existence. Quel est le but de son existence? C'est d'être une hostie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être une hostie si c'est naître quelque chose de pur qui s'offre à Dieu dans l'amour, entièrement amoureux de Dieu. Et une voix lointaine se fait entendre au fond de sa conscience. Tout quitter pour suivre le Christ. Et l'appel devient plus pressant que jamais. Si tu veux être parfait, dit Jésus, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Et un matin de 1851, bien, Charbel Maclouf quitte secrètement le village. Il s'appelait Youssef, au fond. Hein? Je l'appelle déjà Charbel, ça va être son nom de religion, ça. Il s'évade de la maison sans prévenir personne, pas même sa mère, il a peur d'être retenu. Son oncle et tuteur, qui s'appelait Tanios, s'opposait d'ailleurs vigoureusement à son désir de la vie monastique. On voulait pas qu'il aille rejoindre les deux grands-oncles. Mais le travail de son neveu, d'ailleurs, lui était d'un grand secours à cet oncle Tanios. Et la mère, Brigitta, bien, elle aimait bien chacun de ses enfants, et particulièrement ce Benjamin, ce petit Youssef, qui n'était pas si jeune maintenant. Elle aurait eu de la peine à le voir partir, et au fond, elle n'était pas sûre de la vocation de son fils. 23 ans, oui, 23 ans, c'est quand même pas si jeune. Il était plein de souvenirs profonds et de profonde affection pour son foyer. Ça se dressait devant ses yeux, ça lui serrait le cœur, mais il a marché sans arrêter, et son village s'est éloigné de ses yeux. Et tout est dépassé, oublié. Alors Youssef n'entend plus qu'une voix au fond de son cœur. Et il marche, viens et suis-moi. Ses oncles moines lui avaient dit tant de fois, tout n'est rien ici-bas. La vie est courte, les plaisirs du monde ne durent qu'un moment. La vraie beauté, c'est quoi? C'est Dieu. Et auprès de lui est le vrai bonheur. Oui, c'est auprès de Dieu qu'est le vrai bonheur. Personnellement, je ne crois pas qu'il soit ailleurs. Quand un couple met Dieu dans son amour, tout le couple jaillit de bonheur. Quand un couple met Dieu entre eux et leurs enfants, ils ont bien des chances que le cœur de leur enfant grandisse et devienne merveilleux. Et ainsi de suite, au travail, partout, dans les communautés, si Dieu est présent, la joie jaillit et Youssef avance, il regarde son destin avec des yeux qui ne tremblent pas et tout à coup, en bas dans la vallée, surgit, avec ses tuiles rouges, se découpant sur le fond de la mer au loin, le grandiose monastère de Notre-Dame de Maïfouk, l'un des plus beaux de l'ordre libanais maronite. Et c'est là que Youssef a passé la première année de son noviciat en 1851. Mais le jeune homme exprime respectueusement en arrivant et simplement là au supérieur son désir de devenir moine. Et le supérieur ne lui cache pas que le joug de la vie religieuse est lourd, les difficultés sont sérieuses. Le noviciat, c'est un temps d'épreuve au sens strict du mot, et qu'il s'agit d'un renoncement absolu au monde et à soi-même pour porter sa croix et suivre le Christ. Et deux jours ne s'étaient pas écoulés depuis cette arrivée que l'on sonnait à la porte du monastère. C'est qui? Vous avez deviné, hein? C'est l'oncle et la mère du jeune homme et quelques amis. Alors l'oncle Tanios ne comprenait rien à cela. Il ne pouvait se résigner à perdre ce neveu qu'il avait pris charge d'élever et dont l'avenir promettait tellement. Alors, il a mis tout en œuvre pour ramener son neveu, mais Youssef a montré fermement que rien ne pouvait le détourner de la volonté de Dieu. Il fallait obéir. Et sa mère écoutait en silence, là. Et cette fois encore, la foi et l'esprit de sacrifice l'emportent sur sa tendresse. Et s'approchant de son fils, on raconte qu'elle lui a pris la main entre les siennes et la secouant énergiquement, lui a dit: si tu ne dois pas devenir un bon religieux, alors, reviens avec moi à la maison. Oui, reviens avec moi à la maison. Mais Youssef a pris l'habit, un dimanche, et 8 jours après son entrée au monastère. Il lui était loisible de garder son prénom, car il se trouvait être celui d'un saint, Youssef. Hein? Mais il voulut le changer pour rompre tout lien avec le monde. Alors il a choisi le nom de Charbel, un martyr de l'église d'Antioche, en l'an 107 sous Trajan. La règle du noviciat constituait une épreuve si dure que ne pouvaient persévérer que les âmes qui étaient vraiment appelées au monastère. Alors le novice devait, 2 ans durant, accomplir des actes quasi héroïques pour mériter confiance et tous les travaux serviles du monastère, intérieur comme extérieur, y compris le blanchissage, la confection du pain, le tissage des soutanes, la cordonnerie, la menuiserie. Mais tous ces travaux étaient exécutés par les novices et ils devaient en août chanter le fils 7 fois par jour. Ah, que ça me rappelle mon séjour à Saint-Benoît-du-Lac. Se lever à minuit. Nous, on se levait seulement à 4 heures, on se levait tard. Pour les nocturnes, qu'on appelle les matines, et pour faire oraison aussi, et toutes les cérémonies liturgiques. Et depuis, il fallait apprendre la règle, oui, oui, ainsi que beaucoup d'autres exercices spirituels. Et l'année de noviciat au monastère de Notre-Dame de Maillefou qui s'achevait. Et là, le frère Charbel devra passer au monastère de Saint-Maron, voilà, Saint-Maron, le monastère d'Anaïa, pour la 2e année qui se terminera par la profession. Il est envoyé avec un moine et d'autres novices. Et vers la fin, faut se rappeler que vers la fin du 13e siècle, le mont d'Anaïa et tous les villages voisins étaient habités par des maronites, groupés autour de leur chef religieux, le patriarche. Et les croisés, après la chute de la Palestine au pouvoir des musulmans, les Sarrasins, s'étaient réfugiés dans le Liban et s'étaient ralliés aux maronites, les croisés, oui, qui venaient d'Europe. Mais malgré leur résistance héroïque, ils furent vaincus par le nombre. Et là, le patriarche maronite Gabriel de Ejoula, après avoir subi une passion identique à celle du Christ, a été atrocement martyrisé par les musulmans tout en proclamant sa foi et en priant pour ses ennemis. Alors c'est là-dessus, sur ce passé dramatique qu'est établie l'Église maronite. Et la confiance est manifestée d'une manière éclatante par la conversion de grandes familles druses au XVIIe siècle, grâce à l'activité apostolique de ces moines libanais. Et le père Charbel va hériter de tout ça et va devenir un grand ami des musulmans, auquel il aura tout pardonné leur passé. donc dans ce couvent maronite d'Anaya, au Liban, beaucoup plus isolé et beaucoup plus austère que celui de Maïfouk, le frère Charbel trouve l'ambiance qui lui convient et y devient ermite. Dès le début de sa vie religieuse, le frère Charbel ne s'était pas contenté d'observer ce qui était prescrit par la règle. Pourtant, une règle qui était dure en elle-même. Sa générosité d'âme a dépassé toutes les obligations aussi. Sa spiritualité, son âme, a toujours cherché le dépassement. Le jour de la profession arrive et frère Charbel est déjà formé à la compréhension des vœux qu'il va prononcer. C'est l'obéissance, la chasteté, la pauvreté. En somme, s'offrir à Dieu par amour, un acte sublime et d'importance majeure. Et là, le don suprême est d'offrir non seulement ce qu'on a, mais aussi ce qu'on est. Alors, par l'obéissance, le religieux sacrifie son bien le plus précieux, c'est sa liberté. Mais il en trouve une autre qui est encore bien plus grande. Quelle inconcevable sottise, disent certains devant le vœu d'obéissance. Sur le rapport humain, c'est une folie, c'est sûr, et le frère Charbel le savait bien. Mais ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu, hein, on lit ça dans la première épître aux Corinthiens. Et par le vœu de chasteté, le frère Charbel va consacrer à Dieu volontairement toute sa puissance d'aimer. Par le vœu de pauvreté, il décide de suivre le Christ plus librement et d'abandonner tout droit de posséder quoi que ce soit. Et même de renoncer à tout désir intérieur de possession. Mais qu'est-ce qui arrive en retour, hein? Il sait bien que Dieu le comblera de ses biens infinis. Oui, Dieu comble les pauvres. Et Charbel, maintenant moine prophète, avait 25 ans. Il était grand, de teint mat, bien découpé, robuste malgré le régime sévère auquel il s'était astreint. Et aucun travail manuel ne le rébutait. Il disait à son supérieur, « Donnez-moi, si vous m'en jugez digne, les corvées les plus rudes, les plus humiliantes. » On l'a mis à l'épreuve. Il a été chargé pendant des mois de nettoyer les couloirs et de collecter les ordures. Il a dû défricher les terres incultes et difficiles là-bas au Liban, sans l'aide d'un bœuf ou d'une mule. Il maniait 10 heures par jour la plus lourde des pioches. Les ampoules crevaient au creux de ses mains et saignaient. Bon, ça me rappelle des souvenirs, ça. Les épines entraient dans ses chaussures, les ronces arrachaient la chair de ses épaules. Puis il disait, « Je vais durcir. » Mais il disait sans souriant. Et en effet, ses mains, ses pieds se couvraient d'une corne qui les rendait insensibles. Mais savez-vous que les moines, en général, ont des cornes aux genoux à force de rester longtemps à genoux? Moi, j'en ai eu. Bien qu'il ait souffert beaucoup du froid, il a résolu de conserver hiver comme été, les mêmes habits, et aux rares heures où il n'était pas accablé de fatigue et en prière, mais il étudiait tous les textes sacrés qui étaient susceptibles de le conduire à la prêtrise. Il mangeait peu, jamais de viande. Quand il était à la cuisine, il se réjouissait de l'odeur des plats qui seraient servis aux autres, et lui se contentait de quelques croutons de pain durci dont personne ne voulait plus. C'est étrange, ces hommes, on dirait qu'ils exagèrent et pourtant ils y trouvent le bonheur. Mais c'est une voie dangereuse où on risque de perdre l'esprit, il me semble. Mais lui ne l'a pas perdu du tout. Et frère Charbel lui dit un jour, le supérieur, « Vous allez vous rendre à l'école de Saint-Cyprien de Cfifan. » Le monastère de Saint-Cyprien était un scolastica destiné exclusivement à la formation de la jeunesse de l'ordre maronite. Et à cette école, on ne venait pas apprendre, mais penser. Les idées ne se forçaient pas. Elles avaient le temps de mûrir d'elles-mêmes. Et on exigeait la vertu avant la science. On était convaincu que tout savoir est un don de l'Esprit-Saint. Or, durant ces 6 ans d'études, le frère Charbel Maclouf acquit un amour actif et durable de la Bible, des Saintes Écritures. Et le 23 juillet 1859, eh bien, Monseigneur Joseph Al-Madrid, curieux nom, hein, Al-Madrid, comme la ville de Madrid, a conféré la prêtrise au frère Charbel, qui était âgé de 31 ans. Pour lui, être un autre Christ et vivre sa messe, voilà le fond même de tout ce qu'il cherchait. Messe pendant laquelle, tous les jours, il renouvelle sa profession religieuse. Et le secret de sa perfection consiste dans l'épanouissement de sa profession monastique, qui est perpétuée sur l'autel pendant sa messe. Tout dans la vie étonnante de cet étrange ermite s'explique par là. Après son ordination, le père Charbel reçoit l'ordre de regagner le monastère d'Anaya, où il avait pris l'habit religieux. C'est là qu'il va passer encore 16 ans parmi ses confrères, oui, parmi ses confrères, avant d'avoir l'autorisation de se retirer de façon définitive dans l'ermitage du monastère pour 23 ans de vie de solitude et de vie ascétique, accompagné d'un seul autre moine pour l'aider. Le but unique du père Charbel, après son retour dans ce monastère qu'il avait tant aimé, a été de chercher Dieu avec toute son âme et de s'unir à lui. Il a déployé tous ses efforts ardents pour vivre strictement sa règle et ses vœux. On l'a dit précédemment, et le père Charbel ne mangeait presque rien. Pourtant, il disait, « Je ne me prive pas, je ne fais même pas ces pénitents. Je vous assure que c'est la seule bonne formule et que l'homme souffre et meurt de trop manger. » L'homme ne sait pas. Charbel n'a jamais mangé un morceau de sucre ni goûté une cuillerée de miel depuis qu'il est au couvent. Cependant, ajoutait-il en souriant, faut pas se désincarner. Sinon, comment ferait-on pour scier le bois, refaire le chaume d'une toiture, hein, les toitures de chaume, hein, c'est de la paille, hein, bêcher le jardin qui nous aide à vivre. Il ajoutait, le bon Dieu n'aime pas nous voir toujours les mains jointes. Il nous a donné des doigts pour nous en servir. C'est pas bête du tout. Et alors, le père Charbel fut un homme de prière ininterrompue. Le père Joseph Abraham, qui a vécu avec lui, a écrit dans son témoignage, « Charbel acquit un degré sublime de piété et de sainteté. Son colloque avec Dieu, les anges et les saints, était continu. Il passait la plus grande partie de la nuit en prière et surtout en oraison. » Sa messe, il la disait toujours très attentivement. Quoique bien intelligent et savant en théologie, il se laissait apercevoir pour un homme simple et ignorant. Dès son lever, il se dirigeait vers la chapelle et il y restait environ 5 heures, presque tout le temps à genoux, fixant le tabernacle ou baissant la tête, priant et gémissant, ou bien longuement absorbé dans la méditation. C'est de quoi nous décourager tous, mais je crois que si on est capable de rester un quart d'heure, nous, pauvres gens, devant le tabernacle. Dieu ne nous en demande pas 5 heures comme lui, il était ermite, une vocation très particulière. La règle imposait aux moines de se lever à minuit pour chanter l'office, comme chez les chartreux aujourd'hui. Mais leur laissait la faculté de se recoucher jusqu'au signal du lever, comme font les chartreux. Et le père Charbel, lui, ben, il restait à la chapelle en prière jusqu'au matin, en contemplation devant Dieu. Il disait, je lui parle, et il me répond. Il ne quittait cette chapelle que le dernier, ayant assisté à toutes les messes de ses confrères, et s'étant ainsi préparé à dire la sienne. Il fallait le voir à l'autel, pour apprendre avec quelle foi vivante prient les saints. Avez-vous déjà vu des messes célébrées comme ça avec une intensité forte? Moi, j'ai vu plusieurs fois celle du père Pio. En 1950, extrêmement impressionnant. Et son travail manuel, ben, c'était une prière aussi. Le meilleur moyen qu'utilise notre religieux pour entretenir sa vie de raison, mais c'était le silence. Il rompait rarement le silence. Il vivait vraiment avec Dieu. Il était évident au père Charbel que la place normale du moine comporte la résidence dans son monastère. Mais cependant, je tiens à vous rappeler que le but de l'ordre auquel il appartenait, puis ses traditions, ben ça permettait aux moines libanais, là, maronites, de pratiquer de l'apostolat. Et actuellement, d'ailleurs, les moines, tout en demeurant dans les monastères, on peut dire qu'ils desservent environ 200 et même plus 200 paroisses dans le Liban. Le père Charbel ne voulait qu'accomplir la volonté de Dieu. « Que faut-il faire, mon père ?» demandait-il. « Mais vous irez visiter les malades et les mourants, vous les confesserez, vous les porterez, leur porterez la Sainte Communion, vous porterez la bonne parole jusqu'au fond des forêts, par tous les temps. Vous tenterez aussi de guérir les corps. Vous avez quelques notions de médecine. » Et Charbel MacLouf s'est incliné devant la volonté du supérieur. Déjà de partout, on l'appelait, on l'attendait. « Seigneur, implorait Charbel, donnez-moi la force de persuasion qui me permettra de ramener à vous toutes ces brebis égarées. » Et on venait de loin, à dos d'âne ou à pied, pour le supplier de sauver un malade. Il disait « Je ne suis pas malade ». Mes supérieurs insistaient « Souvenez-vous d'Ibrahim, il va mieux depuis que vous le soignez. Maintenant, il croit même en Dieu. Et son fils, dont le bras droit était inutilisable, il est maintenant guéri, puis il travaille. » Et Charbel Maclouf répondait à son supérieur, « Je n'ai rien fait d'autre pour lui que de prier. » Mais vous, c'est des miracles qu'il faisait. Un prêtre, le père Michel Abiramia, qui assistait à la dernière heure du père Charbel, écrit de lui, « Le père Charbel procurait la joie à ceux qui se confessaient à lui, et moi-même, j'y tenais bien souvent. Et à présent que je voudrais rencontrer un confesseur aussi habile que lui. » Oh, il avait une mémoire extraordinaire. Il lisait dans le cœur du pénitent, se souvenait de tout son passé. Et malgré la dure pénitence qu'il imposait, les fidèles étaient heureux de revenir à son confessionnal. Les fidèles n'avaient pas peur d'avoir une grosse pénitence. Le père Abraham, lui, déclarait, se mettait un plaisir d'observer l'étonnante conduite régulière de ce religieux et d'admirer le degré de perfection auquel il était parvenu. Chaque fois que je le voyais pratiquer une vertu, je me disais, c'est sa plus grande vertu. Mais, quand il en venait à une autre, il l'accomplissait encore plus parfaitement. Oui. Étrange, hein, Charbel Maclouf, appliquant toute sa volonté à l'utilisation de sa grande intelligence, ben, il visait la perfection spirituelle. Il cherchait à l'atteindre. Toute cette vie de moine n'épuise pas l'héroïsme du père Charbel. Sa profonde charité était assoiffée d'une plus grande ressemblance à Jésus-Christ. Monté sur le sommet, sur le calvaire de l'ermitage, il va passer 23 ans dans ce haut lieu. Et là, sa vie érémitique, comme ermite, seul mais accompagné d'un autre quand même, deviendra pour notre 20e siècle un témoignage éclatant. Et cela va montrer combien ce genre de vie se perpétue toujours dans l'Église catholique. Je vous en ai déjà parlé dans des tas d'émissions en parlant des ermites du 3e et 4e siècle et 5e siècle. Mais ça existe toujours, et j'en ai déjà interviewé à l'émission Rencontre. Souvenez-vous du père De Vogué, d'une des plus grandes familles françaises, qui était ermite bénédictin à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Quel homme merveilleux qui cherchait Dieu. Dans cette solitude totale étrange, les vertus de ces grands solitaires de jadis ne sont point légendaires. Ça existe toujours, et devenir ermite est une vocation d'exception, c'est sûr. Et notre moine, Charbel Maclouf, moine d'Anaya, s'est senti appelé de tout son être. Il en exprime à la fin du 19e siècle le désir à son supérieur. Il en a sollicité l'autorisation. Les supérieurs n'accordaient pas ça facilement, mais il a obtenu l'autorisation. Il est âgé de 47 ans quand il devient ermite. Uni à Dieu par la pensée et l'amour, le père Charbel l'était aussi par le renoncement et la souffrance. Il a souffert dans son corps. Je vous rappelle que son seul repas quotidien ne pouvait consister que dans des légumes crus ou cuits simplement à l'eau. Et rarement, cet ermite l'assaisonnait avec un peu d'huile. C'est le père Siméon d'Aïtou qui écrit « Arrivé à l'ermitage, j'entre d'abord, selon la coutume, suivi dans notre ordre, dans la chapelle. » Je vois le père Charbel à genoux, les bras étendus, il reste ainsi longtemps. L'après-midi, à l'heure du repas des ermites, le père Macarios, qui est le compagnon du père Charbel, l'appelle. Il arrive sans tarder. Le repas se composait d'un potage de pommes de terre. Alors je vois le père Charbel prendre les morceaux de pain brûlés, les miettes, et les poser dans son assiette en bois. Pris alors de compassion, les larmes me viennent aux yeux, je me dis... Comment cet ermite se mortifie? Comme il se mortifie! Et quelle différence entre sa vie parfaite et la nôtre! Et le repas terminé, il retourne à la chapelle. C'est la fin du témoignage de ce père Siméon d'Aïtou. Son matelas, bien le père Charbel en avait vraiment un. Voilà ce qu'en témoigne le frère Jawad. Je suis entré moi-même dans la cellule de l'ermite et j'ai vu son matelas. Il était fait de feuillage de chêne couvert d'une paillasse. Je vous l'avais signalé au début. L'oreiller n'était qu'une pièce de bois enroulée dans un bout de soutane. Je vous rappelle que, encore pour ce saint, la très sainte Vierge est importante, car il faut dire que la très sainte Vierge au Liban, elle est reine, elle est patronne, elle est protectrice de ce peuple maronite martyr. Il n'y a pas un fidèle qui ne possède son image et qui ne sache honorer la Sainte Vierge en famille. La plupart des églises maronites et des monastères maronites comme celui de l'avenue du Charme à Outremont sont placés sous le vocable de Notre-Dame, même si celui d'Outremont est sous le vocable de Saint-Antoine. Le père Charbel devait lui aussi apprendre à la maison natale à honorer Marie, à y être très attaché. Il disait, voulez-vous être sauvé avec certitude? Ayez une grande dévotion pour la Vierge Marie. Elle garantira votre salut. Et oui, il avait confiance en celle qui, comme il dit, sauve infailliblement celui qui l'honore. Voici quelques faits que je vous raconte rapidement. Le premier est tiré du témoignage de Pierre Tanous Moussa. Un terrible fou, Jibrahil Saba, était devenu dangereux pour sa vie autant que pour celle des autres. Et ce Pierre Tanous Moussa ajoute, « Moi et plusieurs hommes, nous le menâmes avec grand peine à l'ermitage. Y arrivé devant la porte de la chapelle, il refusa d'entrer malgré nos efforts. Je me rendis chez le père Charbel et je le mis au courant. Et le père vint et lui ordonna, tout doucement, entrer à la chapelle. Et le fou a obéi sans mot dire. Mais il se tenait mal. Alors le père Charbel lui a dit, « Mettez-vous à genoux comme il faut. » Il s'est agenouillé, les bras croisés comme un ange. Et l'ermite, alors, prit l'évangile et le lui déposa sur sa tête malade. Puis, nous avons ramené ce fou, qui était devenu calme et silencieux. « Il est tout à fait guéri. » Ce Jibrahil est actuellement en Amérique, il a plusieurs enfants. Étrange miracle. Le second miracle est relaté par le compagnon de l'ermite, le père Macarios, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par beaucoup d'autres aussi, un jour, il a reçu l'ordre du supérieur de partir avec deux messagers pour Futu Kisruan afin de prier sur un malade. Alors, il y est allé. Arrivé à mi-chemin, il s'est arrêté soudain puis s'est mis à genoux. Il a fait signe au messager d'en faire autant, puis a dit « Prions pour ce pauvre malade, car il est mort en ce moment. Il vient de mourir. » Puis se levant, il s'est excusé, puis il est retourné à l'ermitage. Et de fait, on s'est renseigné, le malade était mort à l'heure indiquée par le père Charbel. En somme, loin de se complaire dans les grâces que Dieu lui donnait, le père Charbel Maclouf renvoyait au ciel toute la gloire et toute la louange. Il était humble comme un enfant. Il était jusqu'à la partie la plus intime et la plus profonde de son âme. Il reconnaissait que de lui-même il était faible et pauvre et infirme. Il se croyait sincèrement et du fond du cœur le dernier de tous les hommes. Et voilà ce qui explique pourquoi il obéissait, même aux domestiques du monastère, pourquoi il aimait manger le reste du repas de ses confrères. Et pourquoi il était disposé à demander pardon des fautes qu'il n'avait même pas commises. Ce que le père Charbel avait entrepris, Dieu, lui, le préservait, le gardait dans la fidélité persévérante. Voilà ce qui consomme et couronne toutes les vertus de notre ermite. Sur son lit de mort, sainte Thérèse d'Avila, faisant sa dernière recommandation à ses filles, il leur avait dit, « Je vous demande de bien observer la règle et les constitutions. Si vous les gardez ponctuellement, nul autre miracle ne sera nécessaire pour votre canonisation. » Eh bien, c'est un peu la même chose pour cet homme. Il a toujours été fidèle. Durant toute sa vie de prêtre, 39 ans, le père Charbel disait sa messe à 11 heures, faisant ainsi de la messe le centre de sa journée, et le reste du temps servait à s'y préparer et à terminer son action de grâce. Il disait, « Je parle à celui qui sait tout, à celui qui voit le fond de mon cœur. Réparez les forces de votre mendiant qui meurt de faim, ô Seigneur. Réchauffez mon cœur de glace au feu de votre amour. Illuminez mes ténèbres par la lumière de votre présence. Et que dès ce moment, et à jamais, rien ne me soit doux que vous seul. Seul, en effet, vous êtes ma nourriture et mon breuvage, mon amour et ma joie, ma douceur et tout mon bien. Père Charbel a vécu sa messe. Ce fut précisément à l'occasion de sa dernière messe qu'il a fait l'offrande suprême dans laquelle tout son passé se condense et devient présent. Il monte le cœur brûlant pour mourir mystiquement et réellement cette fois avec le Christ hostie. Avant la consécration, comme il faisait extrêmement froid, il y a un frisson qui le prit subitement. Et là, le père Macarios, son confrère, s'apercevant qu'il ne pouvait pas aller plus loin, l'a ramené se reposer un instant. Première chute sous la croix. Et ce ne fut qu'un petit moment. Alors là, l'ermite, il remonte à l'autel, il reprend la messe. Il veut continuer, il consacre les saintes espèces, il élève le calice surmonté de l'hostie. Oh, avec ce geste de l'élévation, le mal le saisit de nouveau. Il tient le calice et l'hostie élevée et les yeux fixés sur Jésus. Il reste ainsi comme figé dans l'immobilité. Alors le père Macarios met l'étole et s'approche en tremblant. Il saisit les saintes espèces et tente de les lui arracher. Mais le père Charbel ne veut pas les abandonner. « Père, lui dit Macarios, laissez-moi le calice. Passez-moi l'hostie. » Et au prix de grands efforts, mais le père Macarios arrive à lui faire quitter l'autel et à le ramener dans sa cellule. Deuxième chute sous la croix. Et là, l'ermite Charbel est atteint de paralysie. Et ça a été sa première et sa dernière maladie. Et durant les 8 jours qui précéderont encore sa mort, eh bien, le père Charbel est en agonie. Une agonie de paix, une agonie de saint, malgré les souffrances. On voudrait donner une dernière satisfaction à celui qui n'a jamais connu le moindre douceur matérielle. On lui apporte alors un bouillon. Et sentant qu'il était fait avec une matière grasse dont il s'était privé toute sa vie, il l'a écarté doucement en disant, « Imaginez, on doit faire abstinence pendant l'Avent. » Oui, oui, on faisait abstinence dans ce temps-là, hein, pendant l'Avent, comme pendant le carême, on mangeait pas de viande. Tout a bien changé. Et jusqu'à la dernière minute, bien, le père Charbel a continué sa messe et ses lèvres redisaient « Ô Père de vérité, voici votre Fils, pour vous plaire. » Et c'est sur ces mots, unis au nom de Jésus, de Marie et de Joseph, que le serviteur de Dieu a rendu son âme dans la nuit du 24 décembre 1898 en la vigile de Noël. Et là aussi, Dieu a voulu que les deux victimes s'unissent dans une parfaite ressemblance pleine d'amour. Elles entrent toutes deux en même temps dans la vie pour avoir le même anniversaire. Un Noël ici-bas, un Noël dans le ciel. Et la mort, le mort, notre cher Charbel est transporté dans la chapelle de l'ermitage. Il a passé la nuit de Noël devant le tabernacle, selon sa coutume. La neige tombait en abondance. La foule est venue. Le 24 décembre 1898 est mort en Dieu l'ermite Charbel de Bicacafra, âgé de 70 ans. Se sont opérés des miracles, et le 15 avril 1899, 3 mois après l'enterrement, eh bien, on a redécouvert son corps, parfaitement conservé. Les mains étaient posées sur sa poitrine devant la croix, le corps tendre, frais, souple, et sur le visage et les mains, une certaine moisissure blanche semblait être du fin coton. Et quand Sababou Moussa essuya cette moisissure, le visage et les mains apparurent comme ceux d'un homme endormi. Un sang bien rouge, mêlé d'eau, coula de son côté. C'était extraordinaire. On n'avait rien vu comme ça. Et c'était observé par des médecins parmi les plus importants. Et un médecin déclarait, mon opinion personnelle, basée sur l'étude et l'expérience, est que ce corps est conservé par une puissance surnaturelle. Des photos ont été prises, on a conservé tout ça. Des miracles ont été obtenus en très grand nombre. Et ce saint est certainement l'un des plus grands saints du XXe siècle, Saint Charbel Maclouf, moine maronite libanais. Il est à vénérer comme un exemple de l'amour entier pour Jésus-Christ et pour Dieu.